Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série. Je vous présente un ouvrage paru il y a quelques mois aux éditions du Cerf. Il se nomme « Quand l'Église s'effondre », un petit itinéraire spirituel pour rester debout malgré tout. Je reçois son auteur, frère Jacques-Benoît Rocher, dominicain, responsable des études de la province de France. Il enseigne la théologie morale à l'Université catholique de Lyon. Bonjour frère Benoît Rocher.
Bonjour.
Alors c'est la première fois que je vous reçois dans cette émission des clés pour vivre. Alors, à qui s'adresse ce livre ?
Eh bien, ce livre, il s'adresse aux chrétiens qui ont été ou qui sont perturbés par un certain nombre de crises qu'ils peuvent voir dans l'Église, notamment la révélation de tous ces abus, de toutes ces grandes figures dont on a l'impression qu'elles étaient des figures porteuses et qui se sont effondrées. Mais plus largement aussi aux chrétiens qui se disent « mais qu'est-ce que va devenir l'Église d'ici quelques années, quelques mois ?» Parce qu'on voit que la pratique s'effondre et que voilà, beaucoup de lieux qu'on aimait disparaissent. Et c'est justement pour dire comment on peut vivre ça dans la foi et sans perdre aussi l'espérance. Parce qu'il ne s'agit pas de nier le fait qu'on est en train de traverser des turbulences plus que vives, mais il s'agit aussi de ne pas les traverser en se disant « on est dans la sinistrose ». Non, il faut qu'on les traverse avec cette bouée, avec cette ancre qui est notre espérance.
Alors, le fil conducteur, il y a un visage que l'on retrouve tout au long de ces différents chapitres, ces différentes étapes que vous présentez en quatre grandes étapes, frère Jacques Benoît. C'est Saint Dominique. Alors, Saint Dominique, vous le côtoyez, c'est votre fondateur.
Alors oui, je le côtoie et en même temps, je dois confesser que je ne le connaissais pas tant que ça en rentrant dans l'ordre dominicain. Et c'est une figure que j'ai redécouverte et en particulier quand on a été confronté à toutes ces crises, j'ai eu cette image qui m'est revenue, qui est d'ailleurs sur la couverture du livre, de Saint Dominique qui retient les murs d'une église en train de s'effondrer. Et c'est vrai qu'au XIIIe siècle, quand il a vécu, l'église a aussi traversé des turbulences. Et je me suis dit, plutôt que de proposer des espèces de recettes toutes faites, de toute façon j'aurais pas eu les moyens moi de les proposer, ces recettes-là, pourquoi pas regarder la vie des saints qui au fond, encore une fois, ce ne sont pas des recettes toutes faites qu'ils nous proposent, mais sont des modèles à suivre, à nous ensuite de voir comment on peut s'en inspirer. Et je trouve que Dominique, il est très attachant pour ça, en tout cas moi je l'aime beaucoup pour ça, parce que c'est un saint assez discret, mais je crois qu'il y a une grande profondeur et qui peut encore nous enseigner aujourd'hui.
Alors ce saint discret a peu écrit.
On a deux lettres qui restent de lui, et en plus pas deux lettres absolument centrales, donc oui, il a peu écrit, mais il a beaucoup prêché, et il a beaucoup marqué ses auditeurs. On a les témoignages de son procès de canonisation, qui a eu lieu 13 ans après sa mort, donc c'était assez proche, il y avait encore des témoins, et les témoins étaient très marqués par deux choses paradoxalement un peu qui semblent un peu incompatibles. C'était sa grande joie à annoncer l'évangile, et en même temps la manière dont il priait la nuit en pleurant, en disant « que vont devenir les pécheurs ?» Donc quelqu'un qui est plein de joie, mais qui est en même temps conscient des enjeux du moment et puis de l'urgence de l'annonce de l'Évangile.
Alors au fond, quel était son secret pour traverser de son temps au XIIe, XIIIe siècle, je dirais, les épreuves graves et ses difficultés? Quel était, je dirais, son charisme?
Alors je crois que son charisme, c'était d'abord d'être un homme profondément évangélique. On dit qu'il avait toujours l'Évangile de Matthieu sur lui et les lettres de Paul et qu'il les lisait souvent. Et je crois que cette fréquentation de l'Évangile est vraiment quelque chose qui a fait de lui un homme évangélique, puis un homme de prière d'abord. Donc quelqu'un qui avait du feu, qui avait envie de transmettre ce feu autour de lui et qui ne se satisfaisait pas des situations bloquées, des situations justement d'échecs dans lesquelles parfois l'Église pouvait se trouver à cette époque.
On est loin dans la description de Saint Dominique de la tiédeur.
Ah, on est très loin de la tiédeur, oui. Non, c'est vraiment un homme de feu. Et alors c'est étonnant parce qu'à la fois c'est un homme de feu, mais un homme discret. C'est-à-dire qu'on voit qu'il respecte beaucoup la pensée de ses frères, qu'il respecte beaucoup ses interlocuteurs. Et je crois que ça, c'est la marque des vrais saints. C'est-à-dire des gens qui sont capables d'allumer le feu dans les autres, mais vous voyez, de ne pas l'allumer en venant forcer la porte du cœur, en se mettant au rythme de l'autre, mais en sachant très bien que c'est le feu de l'Évangile qui doit leur porter.
Alors, comment continuer à annoncer cet Évangile dans un monde en feu, dans une église éprouvée, dans une église abusée aussi, désorientée par les épreuves que nous connaissons, que nous n'avons même plus besoin de nommer, frère Jacques Benoît?
Alors, ben, je crois que la première chose, c'est d'abord de se rendre compte que ces épreuves, elles nous affectent. Je crois
vous
beaucoup.
Avez été vous-même affecté
Moi, j'ai été moi-même affecté. Alors, je n'ai pas été victime, évidemment, directement, enfin, heureusement, directement, mais j'ai eu beaucoup de confidences de gens qui sont venus d'abord me parler du fait qu'ils ont été victimes eux-mêmes de prêtres qui les ont abusés. Et cela déjà quelques temps avant mon entrée dans l'ordre. Et je crois que ça a beaucoup marqué mon parcours aussi, parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire finalement de devenir religieux, d'être appelé à devenir prêtre, alors qu'il y a des gens qui ont été marqués profondément par cette Église et qui, pour qui la figure du religieux et du prêtre est une figure de mort, en fait. Et ça m'a beaucoup marqué à ce moment-là. Et puis, je dois dire, j'ai aussi reçu ces derniers mois, ces dernières années, des gens qui n'étaient pas directement victimes, mais qui étaient extrêmement déstabilisés par tout ce qui se passait. Donc voilà, je crois que là-dedans, on est effectivement tous dans la même barque et on n'est pas indifférent à ce qui se passe.
Alors pourquoi on devient religieux et pourquoi on devient dominicain ?
Je crois que y a d'abord le mystère quand même d'un appel qui vient de Dieu, ça c'est vrai. Mais il y a aussi une aspiration profonde qu'on peut trouver, quelle que soit d'ailleurs notre vocation concrète dans l'Église, mais c'est l'appel à la sainteté et l'appel à vouloir partager cette parole. Je crois que tous, on a fait une expérience du fait que la parole est quelque chose qui a changé notre vie. Et que cette profondeur finalement de la parole de Dieu, de cette présence aussi du Christ qui est cette parole vivante à nos côtés, c'est pas du pipeau si vous me permettez l'expression, c'est quelque chose qui de façon vraiment profonde permet de changer une vie. Moi je dirais que le Christ dans ma vie ça a été aussi quelqu'un qui a été un vrai ami. C'est-à-dire pas simplement quelqu'un, vous voyez, qui vous met le bras autour de l'épaule pour vous dire de temps en temps, bon ben voilà, c'est difficile, mais ça va passer. Aussi quelqu'un qui est là pour dire, ben là, ce que t'es en train de faire, ça te ressemble pas, c'est pas digne de toi, vas-y, change. Et ça, je crois que c'est la caractéristique des gens qui vous aiment vraiment, c'est qu'ils sont capables d'être là pour vous cajoler, si j'ose dire, quand le ça va mal, mais ils sont aussi là parfois pour vous prendre un peu à rebrousse-poil quand vous prenez pas une bonne direction. Et c'est ça une vraie marque d'amour. Et je crois que le Christ et sa parole, c'est ça pour nous tous.
Est-ce que c'est aussi la vocation d'un religieux, d'un frère dominicain appelé à prêcher, en montrer au fond la direction, puisque vous parlez de direction ?
Oui, alors montrer la direction
et puis aussi être
à l'écoute de ce que vivent les gens. Moi, je dois dire que c'est quelque chose qui m'émerveille chaque jour, vraiment. Hein, c'est encore pas des paroles en l'air, mais ça m'émerveille chaque jour d'être témoin de ce que vivent énormément de personnes, très différentes. Et je dois dire que je n'imaginais pas ça avant de devenir religieux et prêtre, de voir la richesse qu'il y a dans le peuple chrétien, de personnes très différentes qui, avec des manières très différentes, ben, s'ouvrent à l'Évangile, s'ouvrent à leur mission de baptiser.
Quelle est votre joie de dominicain ?
Ben, je crois que ça fait partie de ça. Ma joie de dominicain, c'est à la fois d'être tous les jours réveillé par la parole, si j'ose dire, dans les offices notamment, ou dans mon étude théologique, mais aussi d'avoir cette chance de rencontrer des chrétiens qui en vivent, et parfois d'une manière que moi j'aurais jamais imaginée ou dont je serais tout simplement pas capable.
Alors quelle est votre, si on peut parler de secret, votre recette de dominicain pour préserver cette espérance, garder cette joie au fond, cette joie des enfants de Dieu, cette joie aussi de l'Évangile dans cette Église qui semble s'effondrer, je dis bien qui semble s'effondrer.
Je crois qu'il faut jamais se laisser attirer par le mal comme un espèce de trou noir, vous voyez, qui vous aspirerait complètement et qui vous méduserait par rapport à ce qui se passe. Il s'agit absolument pas de le nier, surtout pas. Il s'agit pas de dire bon ben voilà, il y a des crimes qui ont été commis, mais regardons la petite pâquerette qui pousse sur la prairie. C'est pas ça. Hein. Mais c'est se dire aussi attention, le mal il a une puissance de captation, il a une puissance de séduction. Morbide finalement. Et ne regarder que le mal, ne regarder que ce qui va mal au fond dans notre Église, peut être aussi quelque chose qui nous détourne de la lumière de l'Évangile. Et pour regarder le mal en face, il faut le regarder avec le visage du Christ. Il faut le regarder avec le Christ qui l'a vaincu. Pour le nommer, pour le vaincre, pour lutter contre, et c'est parfois difficile, encore une fois, il ne s'agit pas de le nier, mais il faut le regarder avec l'espérance.
Alors vous parlez pour le regarder, ne pas le nier, lutter contre. Quels sont les moyens aussi pour, au fond, être appelé à discerner, à reconnaître où est le mal ? On est aujourd'hui dans un monde un peu en ténèbres, hein, englué aussi, où on ne sait plus nommer le mal quand il y a mal et le bien quand il y a bien. Voilà.
Oui, tout à fait. Je crois que ça, c'est quelque chose, peut-être que cette crise nous apprend ou nous a appris, mais qu'on peut retrouver encore une fois chez Dominique. Je disais tout à l'heure qu'il pleurait en disant « que vont devenir les pécheurs ?» Ben, « que vont devenir les pécheurs ?» implique qu'on nomme le péché aussi. Hein. Et ça, peut-être qu'on ne l'a pas assez fait dans l'Église, hein, de dire « voilà, telle situation est absolument intolérable et on ne peut pas continuer d'être tiède par rapport à telle et telle circonstance, telle et telle situation. » Parfois, il faut nommer le péché. Nommer le péché, ce n'est pas condamner les personnes. Hein. Nommer le péché, c'est reconnaître qu'il y a du mal à l'œuvre dans le monde et c'est appeler les gens à la conversion.
C'est un bon programme que nous commençons. Je vous invite, frère Jacques Benoît Rocher, c'est un programme intéressant là que vous nous proposez dans ces dernières minutes d'entretien. Je vous propose de continuer cette série des clés pour vivre dès demain. Je rappelle que est paru il y a quelques mois aux éditions du CERF ce petit livre accessible pour le plus grand nombre. Quand l'Église s'effondre, c'est un petit itinéraire spirituel pour rester au fond. Restez debout dans cette église et dans ce monde. À demain.
À demain.